Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Previously on AMC's The Walking Dead.
I owe a debt. Walkie-talkie, the one in the bag I dropped. He's got the other one. I'm going back.
I tell you what! Wait.
My husband is alive.
Now you think that I'm not happy about that?
You are the one that told me that he died.
Oh my God.
Oh, vous êtes là? Eh ben, on va pouvoir commencer. C'est parti. Salut, ici Squalarian, et je vais vous présenter la seconde partie de la rétrospective sur la série des Silent Hill. Vous vous demandez bien pourquoi je repasse le générique du premier Silent Hill, tout simplement parce que il y a un changement. Si vous aviez les images, vous auriez vu qu'à la place de la mère de Chibble, nous avons Sable Bennett. C'est un secret. Si on termine avec la bonne fin, la fin Good Plus, nous avons la possibilité de débloquer cette scène. Et même Bob Lemon, grand connaisseur dans l'éternel, pouvait vous dire que vous ne connaissez pas beaucoup de jeux qui sont comme ça. Donc je vais vous présenter chaque thème présent proposé selon les 4 premiers Silent Hill. Tout simplement pour la raison, c'est que en fait, je ne connais pas d'autres. Personnellement, je vais dire je n'ai pas encore prototypé de Warm Tom ou bien de Silent Origins. Et les 4 résument bien. Donc pour ces 4, nous relevelerons les points forts, ce qui en concerne la musique, les énigmes, les monstres, enfin pour chaque thème, au lieu de pour chaque thème de vous présenter les séries. Et ben c'est parti, entrons dans Silent Hill. Avant tout, j'aimerais rappeler qu'il faut impérativement savoir que cette fois-ci, il y aura d'énormément de spoilers, car je ne peux pas délivrer des secrets ou des easter eggs sans en dévoiler. Plongeons-nous donc dans cet univers où le sang fait office de peinture, où le grillage fait office de sol, et où l'horreur est le quotidien. En fait, qu'est-ce qu'en fait ce type de jeu? Bref, évidemment, comme nous le savons tous, c'est un survival horror. Les premiers, et le but, c'est bien en fait de survivre selon les attaques de monstres inépiqués ou non. Et la particularité ici, c'est que tout d'abord, c'est que la peur, elle vient de ce qu'on justement on entend et on ne voit pas. Un des points forts, donc en fait, que quand on joue, c'est que nous voyons que Ewie Mason, pour le premier, va être plongé dans une ville, une ville inspirée de San Francisco, plongé dans le brouillard. Pire, c'est qu'en fait, il recherche sa fille. Et il va se rendre compte qu'il est attaqué par un étrange monstre. Et d'ailleurs, la première scène dans le bar est un exemple, un petit tutoriel. C'est tout de suite, on te flingue un flingue, on sait même pas d'où il vient, il est là. Tu te débrouilles avec. Il est extrêmement simple, mais en difficulté plus compliquée, c'est juste pour se faire une idée. Et le premier monstre, ce sera un monstre ailé. Mais qu'est-ce que c'est en fait cette ville? Une chose étonnante, c'est que c'était aussi un petit cache-misère inventé par Konami, car ça a aussi l'atout de cacher les clippings des textures. Il faut savoir que dans la première version, qui est sur le PlayStation, n'avait pas possibilité de cliquer son clipping, c'était pas la joie, et c'était c'est pas mal. Mais vu que dans le scénario on y croit, ça fait bien. C'est cet avantage. On aura des phases donc cachées par le brouillard et des phases aussi dans la nuit. Comme ça, de manière, on n'aura pas. C'est pas comme pour la Nintendo 64 qui faisait un petit flou horrible pour cacher là. Nous avons là. Et une seconde particularité, c'est que la radio. Tout de suite, Ryan Mason a le choix de la radio. La radio en fait est prétexte pour activer le script. Dès qu'on a Ryan Mason prend la radio, il va se rendre compte que c'est une arme. Une arme en fait défensive. Car à chaque fois qu'un monstre, un danger va apparaître, ça grésille. Et c'est ça qui est vraiment excellent dans cette série, ce qui va jouer en fait sur la peur. Mais en fait, La peur de quoi? Eh ben, dans les japonaises, Konami a fait une étude et s'est rendu compte que tout ce qui nous faisait peur était inclus. Nous voyons par exemple dans Silent Hill 2 les toilettes, car beaucoup ont peur de ce qui peut se passer dans les toilettes, les WC. C'est pour ça que James Sutherland débute le jeu dans les toilettes. C'est peu convenable. Évidemment, les toilettes bien crasseux. Nous avons aussi la théorie seule, entendre et pas voir. Il y a aussi le sexe. Oui, énormément. Puisque justement, je suis dans Silent Hill 2. Nous avons les infirmières assez jolies, qui ont une démarche assez bancale, mais qui rappellent une chose étrangement, c'est que le sexe et l'horreur sont étroitement liés. Nous avons aussi, par exemple, dans les films d'horreur, qui utilisent le sexe, non seulement pas à pâter le chaland, mais c'est quand même, ça fait partie un des codes du genre. Eh bien, restons donc dans les deux premiers, au sujet du graphisme. Le 2, qui a été à l'origine réalisé sur PS2, et ben la possibilité, toujours par la même équipe, Sato Works, le producteur Inamura et Akira Yamaoka, je rappelle ingénieur du son mais aussi compositeur du thème, que au sujet des graphismes, la PS2 a la possibilité de donner un meilleur rendu, surtout au sujet du brouillard. Un rendu encore renforcé dans la version Xbox, plus tard évidemment dans la version PC. Et non seulement il y a ce fait de brouillard, mais il y a aussi un grain qui a été rajouté dans le 2, qui sera encore persistant dans le 3, et qui sera un des codes du jeu. Pourquoi ce grain? Ça apporte quelque chose d'assez malaisé. Tout est fait pour rendre mal à l'aise le jeu. Ainsi évidemment que la musique. Mais en ce qui reste encore dans le graphisme, le moteur physique va être évolué. Alors que dans le premier, le Harry Mason se prenait tous les murs, car il n'y avait pas une véritable gestion de poids. Dans le 2, James Sutherland, on le sent bien, pour y aller, il ne pourra pas faire sentir un marathon. Ou bien il se fatigue pour un oui, pour un non. Et il est impossible de le planter dans les murs. Nous avons bien une réelle avancée, et ce n'est que mieux. Les personnages se comportent bien mieux que dans Resident Evil où c'est assez pâteau. C'est assez étonnant car les héros qui se défendent, tant mieux que mal, mais ils peuvent se placer en tyran. C'est que en fait, dans Resident Evil, on s'était refusé encore jusque-là à le faire, ce qui est tout à fait idiot. Quand on peut se défendre, tout autant évidemment, c'est des placements qu'on veut. Et bien, puisqu'on est ensemble dans les armes, on pourrait voir que ça c'est Légion. Wilson commence aussi avec un couteau et un petit Beretta. Et il y aura possibilité de collecter diverses. Le plus courant, c'est le bâton. C'est pareil pour le 2, il n'y a pas de particulier. Dans le 3 d'ailleurs, ça sera surtout si vous jouez dans les modes de difficultés assez compliquées, il sera largement préférable d'utiliser le bâton. Ou même mieux, comme si c'était un survival horror, de courir. Le bâton, ce sera un type de cuivre, c'est assez intéressant de voir les tuyaux, tout ce qui peut tomber dans les mains. Il y a aussi évidemment les uns spéciales, ça fait partie des petits easter eggs. Là, si on débloquait la fin UFO du premier, il suffit en fait de trouver une pierre dans un magasin. En seconde, on note New Fear, on a la possibilité d'utiliser l'Hyper Blaster, qui est une arme de d'extraterrestre. Mais il y a également, puisque j'y passe au Most New Fear, la possibilité d'utiliser la tronçonneuse ou bien le marteau piqueur, ce qui était impossible dans le premier parce qu'il manquait l'essence. On aura l'essence en Most New Fear. Bon, c'est assez lent, assez malaisé, c'est surtout pour le fun. Dans le deuxième, un petit clin d'œil, on aura la possibilité de la tronçonneuse, mais pas tout de suite. Non, il faudra débloquer 2-3 fins, je trouve la fin chien ou une autre fin, avant que la tronçonneuse, comme on ne sait pas d'où elle vient, elle se met à se présenter là. Il y a aussi l'arme par excellence dans le Silent Hill 2, c'est un Hyper Blaster. En fait, on va avoir la possibilité, à force, chaque fois que vous jouez, vous aurez un rang, selon le mode difficulté. Je vais en finir par parler, laisser le mode difficulté, comme ça on aura terminé. Mais je termine en disant que si vous avez fait un bon rang, le rayon au sol que vous trouverez sera plus ou moins efficace. Si par exemple, si vous avez terminé avec un rang minable, vous avez eu énormément de dégâts, vous n'avez pas tué beaucoup d'ennemis, il servira strictement à rien, cet aérosol. Il fera juste un tchhh. Et si par contre vous avez été le best of the best, un bomb de Lennon de l'horreur, et ben vous aurez alors l'arme la plus forte. D'ailleurs, vous verrez la différence de couleur. Vous prouve et qui fera que n'importe quel ennemi sera rendu à terre, terrassé grâce à cette arme là. Les modes de difficulté, déjà dans la partie du premier, qui sera vrai dans le 2 et ainsi de suite. Dans le premier, uniquement un mode de difficulté et une seule type d'énigme. Alors que dans le deuxième, on proposera trois difficultés pour l'action. Et, enfin, en réalité, il y aura aussi une version aussi débutante qu'on peut oublier. Hein, et trois versions de difficultés pour les énigmes. Et à savoir que chaque fois que vous avez terminé l'énigme facile, difficile et normal et difficile, vous avez chaque fois une difficulté un peu plus. Ce qui ne change rien, c'est que en extra hard et ainsi de suite, c'est les réponses sont chaque fois aléatoires dans beaucoup d'énigmes, comme par exemple le cul ou bien l'énigme qui n'est pas du tout aléatoire comme celui du coffre-fort qui donne des munitions. Ou c'est plutôt une méthode qu'il faudra utiliser. Dans le 3, c'est encore pareil. Et puisque j'en parlais dans la première version, si vous mourrez à plusieurs reprises, on a la possibilité de jouer, pas pour les ennemis, mais pour l'action, un extra facile. Mais sachez que si vous l'activez dans les options, à ce moment-là, vous ne pourrez plus prétendre avoir un meilleur rang, ça va jouer sur le rang. Dans Incendie 3, vous avez encore aussi la possibilité d'augmenter au fur et à mesure le mode de difficulté de l'action. Une chose amusante, dans le petit secret qui est dans le mode de difficulté d'énigme difficile, Heather devra résoudre une œuvre d'après les œuvres de Shakespeare. Ce qui est étonnant, c'est que Heather se prétend ne pas connaître les œuvres, alors que dans le mode difficulté, on est vraiment obligé de connaître les œuvres pour pouvoir résoudre. Ouais. Bon, dans le 4 au niveau graphisme, c'est non seulement le graphisme, le gameplay va s'améliorer, car ce qu'il y avait dans les trois premiers, c'est que dans les menus, on avait possible, il fallait, si on passait pour changer d'arme ou utiliser des munitions, et ainsi de suite, il fallait passer par un menu qui mettait en pause, alors que dans le quatrième, c'est beaucoup plus ergonomique, le menu se trouve en bas, et automatiquement dans les rangs pour voir l'animation, hop, on ne sait pas comment il se passe. Le héros ennui, Townsend, change d'arme, de switch entre armes et munitions, plutôt entre armes et item, sans souci, mais là il n'y a plus maintenant le côté passer par le menu pour faire une pause. Passons maintenant à un autre thème. Le passage du rêve à la réalité. Car ce qui passe, en fait, ce qui est à ces moments, c'est le passage où le héros sera plongé d'un univers à un autre. Déjà, le premier univers angoissant, celle de ce qu'on appellera la réalité, ce qu'il voit. Dans Henry Mason, le premier, il cherche sa fille. Dans le deuxième, James O'Dallon se retourne dans la ville de Silent Hill, qui en fait est différent du premier, mais au passage, et recherche sa fin. Dans le troisième, nous avons Heather qui, en fait, tout simplement retourne à la maison, dans la ville de Saint-Hil, elle est dans le service commercial. Rien de nouveau de soleil. Le quatrième, qui est un peu différent, comme je l'avais dit, qui est l'origine, d'ailleurs, The Room, n'était pas un Saint-Hil. Et de plus, celui-là, par contre, démarre par un cauchemar. Mais quelles sont, en fait, les phases de transition? Ce qu'en fait, le film va rajouter, par les superbes effets, qui sera repris dans Hampton, c'est assez étonnant, beaucoup. C'est comme aussi dans après le film de Paul Anderson de Resident Evil, des effets, des passages vont être repris dans Resident Evil 4. Je pense par exemple à la scène des lasers qui découpent. Il y a une chose, c'est l'alarme, la sirène. À ce moment-là, nous avons un passage du cauchemar à la réalité. Par contre, le processus inverse. De passer ce que nous appellerons donc réalité à ce que nous appellerons cauchemar est assez vicieux, car nous pouvons avoir par exemple pour une autre passage à l'ennemi. Dans le premier, nous avons Harry Mason dès la possibilité quand il traverse la petite maison, quand il trouve en fait la maison la nuit, je sais pas pourquoi, et automatiquement sa lampe s'allume. Pour le second, c'est à peu près le même type style, on ne sait pas, on voit pas la différence alors que la différence au cauchemar réalité est beaucoup plus judicieux. Le monde, en fait, ce qu'on appelle en cauchemar, est ce qu'on appelle le monde altéré. Mais altéré par quoi? D'où viennent ces monstres? C'est ce que nous allons voir. C'est surtout le 2 qui va nous indiquer et nous rappeler. C'est que c'est au moment où James Sutherland va se rendre compte que qui est à la recherche, c'est d'un pardon. Sa femme est morte, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui-même qui a tué sa femme. Si elle avait à la fin, on a la vérité toute crue. Ça le frappe au visage. Et avant de parler des monstres, nous allons parler aussi du personnage de Meruya. Si Meruya, en fait, aurait étrangement à sa femme, c'est tout simplement parce qu'elle a la projection de son épouse, de ce qu'il aurait aimé pour son épouse. Et c'est ça, c'est pour ça que je disais que la fin de Meruya, avec la super musique pour Miles de Akira Yamaoka, est assez étonnant, parce qu'elle ne peut pas le mieux l'être. Il ne peut pas refaire sa vie avec la son de ce rêve, la femme parfaite, celle qui ne t'aura pas. Et chose amusante, c'est comme dans tous les films d'horreur, il y a toute une zinc d'humour. Maria, au cours du jeu, va se mettre à tousser, avoir les mêmes symptômes que sa femme. Ça, c'est amusant. Alors, si Maria était la projection dans le 2, mais qu'est-ce qu'étaient les monstres dans le 1, le 2, le 3 et le 4? Eh bien, les monstres, en fait, naissent de la culpabilité du héros. Eh bien, chacun de nous a des péchés, des défauts, des erreurs, en fait, plus ou moins inavoués. Eh bien, commençons, en fait, par Chiwell, la fille de Harry Mason. Chiwell, qui recherche, n'est pas sa fille. Allez, c'est ce que nous voyons dans la scène du générique, c'est qu'il a découvert, en fait, l'enfant avec son épouse, et ils vont l'adopter. Cet enfant, donc, deviendra Chiwell Mason. C'est ce que nous voyons dans la suite du 3, quand nous apprenons qu'en fait, que Heather n'est que cette Chiwell. Par contre, nous verrons encore plus tard, en fait, qu'est Heather exactement par rapport à l'histoire. Pour le 2, quand James Sutherland a le poids du péché, c'est là où devient cette culpabilité. Les monstres viennent là, et c'est pour ça que Pyramide aide l'homme tête de conne dans la version du jeu, et l'incarnation même de quelqu'un, en fait, qui est pas pointu, comme disait le concepteur, qui est le même dans les deux premiers, même dans le 3, c'est Masahiro Ito. C'est que il voulait montrer par cette image là qu'il n'y a pas de défini. Au départ, il voulait faire une cagoule, mais c'était toujours une tête dans le cagoule, alors que l'image de Pyramide est assez mystérieuse. On ne sait pas exactement, en fait, quelle est l'origine. Bref, je le dis ça parce que c'est aparté, car dans le film, Chris Hemsworth aurait voulu faire une adaptation du 2, mais ils se sont rendu compte que démarrer avec un 2 sans poser les bases du premier, ça n'allait pas. Et donc il a fait l'erreur d'inclure ce personnage, bien que son personnage est très très charismatique, et c'est un des points forts du film. Dans le 3, c'est toujours pareil, Heather voit juste en immense, mais nous avons quand même une scène qui aime bien aussi nous travailler, et nous allons l'écouter là maintenant. Donc là, nous avons Heather qui est dans la bibliothèque, et elle rencontre Vincent. Donc Vincent la salue, elle lui dit qu'en fait elle le retrouve souvent dans les pattes.
You show up everywhere, don't you?
Make me sound like some kind of
unknown. De manière, elle lui demande, mais qui est-il, en fait?
Well, who are you anyway?
Haven't you realized that yet?
Voilà, et elle pense qu'en fait, il est de côté de Claudia Wolf, qui la recherche pour lui faire du mal. Mais il a des trompes, il lui dit qu'en fait, elle se trompe.
Ouais.
Il avoue qu'en fait, il croit à un même Dieu, mais lui, il a une vision un peu plus particulière par rapport. En fait, Claudia Wolf veut un nouveau Dieu. C'est ça, la thème de la religion dans les Saint-Hilles. Oui, il ne pense pas en fait qu'elle a besoin d'une réincarnation. Alors Claudia en recherche en fait en Heather qu'elle soit la mère du futur dieu, tout simplement. Il veut faire comprendre qu'il est réellement de son côté à elle. Mais lui ne veut pas cette naissance de Dieu. Il ne veut pas que ce Dieu se noie né. S'il attend d'elle qu'il stoppe la folie de Claudia.
My dirty work. I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done.
Il lui apprend qu'en fait, elle est la seule à pouvoir le faire.
I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot, sweaty.
Oh.
Elle ne croit pas en fait.
I'm just looking out for myself. Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst.
Et là, il apprend en fait qu'elle n'a pas le regarder de haut parce qu'elle est pire que tout le monde.
You come here and
elle lui dit qu'elle vient ici et qu'elle vient aussi se réjouir de répandre le sang. D'entendre pleurer les âmes et s'amuse à massacrer. Il rappelle qu'en fait qu'elle prenait même plaisir à les écraser sur le sol. Et là, elle dédoute, elle demande mais de qui il parle ? Est-ce qu'il parle des monstres ? Monstres ? Est-ce que vous essayez des monstres pour vous ?
It's just a joke.
Il peut lui dire en fait, on verra bien son visage avec un visage assez faussé, c'est qu'en fait il s'amusait et que c'était tout simplement une plaisanterie. Passons maintenant à une autre scène culte, celle du premier, où on voit Chiwal apparaître dans un écran.
Beep, help me. Beep, where are you?
Cette scène là on la voit dans le deux, troisième aussi, Silent Hill 3. C'est normal, car Heather et Chiwal, ça nous rappelle encore, ça accentue en fait l'horreur de la situation. On la kidnappe et ainsi de suite. Qui l'a kidnappé? C'était Dahlia Gillespie. Et on voyait Alessa. Qui est Alessa? Alessa et la... Plutôt, on dirait plutôt Sable et la réincarnation d'Alessa. Alessa est morte. Dahlia Gillespie veut la faire renaître. Elle aurait dû avoir 16 ans, c'est pour ça que Uri Mason a failli l'écraser, mais il n'hésitait pas. Sa fille qu'il avait sur lui était son incarnation, et c'est ce qu'elle voulait faire, Dahlia Gillespie, un nouveau dieu. Ce que dans le cas de Claudia Wolf est tout à fait pareil. Nous avons là encore le très fort des religions. Et puisque j'en parle de la religion, sachez qu'en fait que chaque élément que nous voyons fait partie de la mythologie. Chaque scène, chaque... sont inspirés, il n'y a aucune aucun lien, quelque chose qui n'a été né gratuit. Nous avons par exemple Valtiel, un personnage dans le 2, qui en retrouvera aussi dans le 3. C'est une sorte de personnage qui tremble et qui ne fait rien. C'est un ange en fait qui est le plus proche de Dieu, quelque chose de proche de Dieu, qui le rappelle le cycle de la renaissance, de la réincarnation. Nous avons aussi le culte de Samael, car la ville de Silent Hill a été basée sur un culte de Samael. Et ensuite c'est détruit, il y a eu plusieurs morts dans le lac, on voit dans le lac Toluca. Et le symbole qu'on voit, un halo de soleil, reparle encore du passé, du présent et du futur. C'est un cycle, ainsi que de la vie. Dans le 3, qu'on voit dans le générique du 3, avec la super musique And the Angel Weeps, ça signifie « Et les anges pleurent ». Mais pourquoi les anges pleurent? Tout simplement parce que, quelque soit la fin du jeu, à part la fin UFO, Heather doit tuer le dieu. C'est pour ça que les anges pleurent. Nous avons comme exemple des images fortes, on a l'image du tarot, hein, ce qui est assez courant, le premier, le 3. Nous avons les papillons. Heather pourrait même avoir un papillon tatoué sur elle si on le voulait. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les papillons, nous voyons aussi dans le 2, où et James Sutherland doit poser sa main, des papillons sortent, c'est le cycle de la réincarnation, où des papillons de l'effet de l'état de chrysalide passent à un nouveau dieu. C'est tout à fait pareil. À ce sujet, puisque j'y pense, dans les nouvelles fins, nous avons des fins différentes, nous avons aussi pas forcément le même personnage. Dans un présent, à un moment donné, c'est devoir combattre à l'essor, et d'autres, non. Ce n'est pas forcément un EDS. Dans le cas du 2, c'est important. Dans le cas du 2, James doit retuer Marie pour avoir être Maria. Mais une fois, dans une scène, c'est Maria qui doit combattre. Il y a aussi encore la fin complètement débile, la fin chien, où il n'y a pas de combat. Dans les petits. J'y pense. Parce qu'il y a assez amusant, c'est que dans le premier Silent Hill, on n'est pas obligé de combattre. Il suffit de vider toutes ces cartouches, et selon la difficulté du jeu, si vous jouez en mode difficulté, vous allez avoir plusieurs décharges. Mode difficulté plus difficile. Si vous jouez en facile, une seule décharge, paf, le monstre, le dieu, ou ça dépend en fait qui va aller combattre, se meurt pour une chose inexpliquée. Nous avons donc divers easter eggs, assez amusant, je peux pas tout vous parler, ce serait long, mais par exemple, on a le coup des rues, le nom des rues, qui sont des personnages, des. Par exemple, on avait Bachman, qui est un des premiers synonymes de Stephen King. Et les autres rues sont des écrivains. Selon les démos, la version démo ou la version américaine ou japonaise, on aura des journaux qui auront des références avec Pulp Fiction. Pour ça, c'est une version américaine. Deux choses, des outils sur. Dans le premier, et ce qui est assez commun, c'est les thèmes des enfants, monstres ou non. Nous avons des petits. Nous avons eu à avoir des enfants. Dans la version originale, il y a des enfants. Ils ont été transformés en petits démons. Ces enfants sont évidemment les écoliers, les personnes qui étaient là. C'est pareil dans Resident Evil 2, où Shinji Mikami voulait inclure des enfants en zombies, hop, c'était retiré. Je pourrais encore parler du code de Konami, qui est OO, BABA, gauche-droite, BA, qui est la version originale, pour un petit clavier, genre Nintendo, mais pour le PC Engine, vous avez OO, BABA, gauche-droite, rond, croix. Sur le code Konami, il sera légèrement différent pour Metal Gear Solid, pour le 3, où le rond et la croix sont remplacés par carré et triangle, du fait que dans la version japonaise d'origine, le code d'action n'est pas croix, mais il est rond. C'est dans ce code, par exemple, débloqué dans le 3ème, on voit une chose amusante, quand derrière quand il est bloqué, on entend Heather en train de jouir. Et on voit donc en fait Douglas, chaque Douglas va apparaître, il sera en boxeur. Bon, on aurait bien voulu voir, c'est Heather en sous-vêtement. Mais c'était pas le cas. Oui, il y a rien de chose étonnante aussi à parler sur le sujet de l'âge de Alessa. Et à ce sujet, je vous propose sa cutscene. Heather dans l'hôpital entend un coup de téléphone. Et quelle est sa surprise quand on ouvre en fait un casier. Et c'est effectivement, émane de là. Évidemment, une première chose qu'on peut voir, et ça que j'ai complètement pensé vous le dire, c'est que, passage rêve réalité, nous avons du sang sur les murs. Des choses tout à fait dégoûtantes.
Happy birthday to you.
La personne lui souhaite en fait joyeux anniversaire. Et chante. Et là, il se rappelle plus son nom. Alors il lui demande. Mais elle lui demande qui êtes-vous. Et alors à ce moment-là, il répond. Et il chante joyeux anniversaire, qui êtes-vous. C'est le petit gag. Alors, heureux, 31 anniversaire. Donc nous avons le 31. Il rappelle qu'une personne est sur Terre maintenant et il s'appelle numéro 7.
But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday.
Il est maintenant que c'est le moment de célébrer son anniversaire.
I'm not mistaken. Today is your 24th birthday.
Mais il lui dit qu'aujourd'hui c'est son 24e anniversaire. On retient le nombre 31. Il a dit 7 et 24. Alors il propose un arrangement. Qu'est-ce qu'il préfère faire? Faire le mal ou le recevoir? On peut choisir ce qu'elle déteste le plus.
Happy birthday to you.
But you're wrong.
Voilà un appel de ce qui est vraiment peu commun. Donc maintenant, examinons les nombres. 7. Le premier Silent Hill passe 14 ans après qu'Alessa meurt. Il faut savoir que 7 ans avant, Dahlia a fait un premier sacrifice pour la faire renaître, ce qui a occasionné la naissance de Chivel. Donc Alessa meurt, 7 ans après, Chivel est trouvé par Emerson et sa femme. 7 ans après, donc 7 ans, ça veut dire 14 ans, ils sont à la ville de Silent Hill. Si Chivel ne disparaît, c'est pour une bonne raison. C'est qu'elle aura besoin d'une réincarnation. Alessa vient. Donc, j'avais dit 16 ans, mais c'est plutôt 14 ans qu'elle apparaît. Voilà pourquoi on la voyait 14 ans. 17 ans après, elle se retrouve à la ville de Silent Hill. Donc, n'oublie pas, elle avait l'âge de 7 ans. Soit, on peut considérer qu'elle a 17 ans, mais c'est pas un des nombres qui est donné. C'est 24. 24 parce qu'en fait, Heather a été à 7 ans, 17 ans, plus les 7 ans par rapport à la sacrination quand elle était au niveau de chez le bébé. Je rappelle, c'est au bout de 7 ans qu'elle remeurt pour renaître. C'est évidemment une des fins où Harry récupère avec le bébé. Il y a une autre où il n'y a pas eu de tout l'enfant et il meurt. Ce qui fait, voilà, alors plutôt 24 ans. Mais si on tient compte encore de ce réchauffé ce 7, que 7 ans avant, Alessa est morte, donc Heather n'aurait pas 24, donc 17 plus 7, mais 24 plus 7, on t'en tient. Et c'est ça qui a assez d'ambiguïté. C'est pas la première fois qu'il y a une ambiguïté sur les âges. C'est par exemple, nous avons dans le personnage Angela Orozco dans le 2, qui est cette fille perdue, violée par son père. Son père, qui est déjà un monstre, on le voit. Et qui, un monstre dans tous les sens du terme, et qui paraissait 16, mais qu'en réalité elle était beaucoup plus mature, elle avait plus que ça. C'est pas le seul point dont nous avons ces moments clés. Ça, c'était assez important. Et je vais quand même vous parler d'une scène culte, celle de Silent Hill 2, où en fait, quand on regarde bien et qu'on écoute, tout est dévoilé. La publicité. C'est parti. Donc c'est la scène où justement James venait d'être attaqué par un Littlefinger. Et il le tue à l'as de son première arme, un bâton. Il dit tiens, c'est cassé. Et là c'est sa femme qui parle. Est-ce que tu m'entends? Elle lui dit viens à un endroit spécial. Why you kill me? Je repasse la scène. Why you kidding me? C'est une chose assez étonnante, c'est que évidemment, quand c'est sous-titré, on ne voit pas bien, mais elle le dit d'avance. Pourquoi m'as-tu tué? Nous avons ces trucs incroyables où des éléments déjà dès le départ est annoncé. Nous avons aussi on court justement à la classe de Silent Hill 2, quand on joue dans Silent Hill 3, mais uniquement dans la version PS2. Et si on a une sauvegarde, on finit une sauvegarde de PS2, nous avons des petits easter eggs, des éléments qui nous rappellent Silent Hill 2, outre les événements. Le Silent Hill 3 est basé avec des endroits, des endroits cultes, Silent Hill 2, mais nous pouvons aussi avoir débloqué des posters de Neon Geo, qui est Maria, qui est en fait, dans l'esprit torturé du héros, est une danseuse. Et voilà quand même qu'est-ce que j'ai pu faire pour présenter. Évidemment ce n'était pas tout, car ce serait bon pour rajouter les images en fait de la chaise roulante et ainsi de suite. On peut voir Heather dans certaines fan art où on la voit en chaise roulante. Ça rappelle en fait dans son passé intérieur, sa vie intérieure où elle était Alessa, et cette chaise roulante qu'on voit aussi dans le 2. Et un petit clin d'œil aussi dans le 4, comme pour la radio qui malheureusement a été éliminée, les radios. Mais je rappelle que The Room, d'origine, n'était pas un senti. C'est pour ça qu'il ne faut pas étonner que le gameplay a relativement changé. Et voilà, pour exemple, un exemple, une face cachée, une chose, ce qu'il peut avoir dans cette arme. Mais une chose est sûre, c'est que c'est manette en main, ou souris. Mais je vous conseille même sur PC de jouer avec une manette. Réellement, donc c'est manette en main. Vous pourrez comprendre en fait cette philosophie et vous plonger dans ce monde d'horreur qu'est les collines silencieuses. Salut.
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.